Le psaume 27. J'espère que les Tessiers sont pas malades. Est-ce qu'il y a des nouvelles des Tessiers?
Oui. Ouais.
Sont-ils malades? Ah, c'est ça. Il y a quelque chose qui court ces temps-ci, c'est ça. Puis eux autres, quand ça part, quand ça part, ça part. Ah, fait que faut prier les uns pour les autres. Il y a quelque chose qui court ces temps-ci, là. On va appeler ça, je sais pas, un rhume, grippette. On va l'appeler comme on veut, mais ça passe. Amen. Psaume 27, on va juste lire le premier verset. Peut-être que certains se connaissent par cœur. On n'est pas obligé de lire de David, mais on sait que c'est de David. Mais ça dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » J'aimerais qu'on prie. Seigneur, on te remercie de ce que c'est ta parole qu'on considère. Ce n'est pas l'ingéniosité humaine, ce n'est pas des fables habilement conçues. C'est ta révélation de qui tu es, de ta pensée, de ton cœur, de ta personne même, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ce passage béni qu'on peut considérer ensemble. Ouvre nos yeux, Seigneur, qu'on en contemple toutes les merveilles, qu'on y voit Christ, notre lumière, la lumière de notre salut, de notre délivrance. Seigneur, on s'attend à toi, parce qu'on a vraiment besoin de toi, Seigneur. On ne fait pas juste le dire. Si tu ne nous enseignes, si tu ne nous convaincs, si tu ne fais ton œuvre, Seigneur, c'est en vain. Mais on est confiant, Seigneur, parce que tu rémunères ceux qui te cherchent. Et c'est ce qu'on fait ce matin, on vient te chercher, toi. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus.
Amen.
Amen. Alors, c'est un joyau de la parole. Ceux qui ont lu le psaume 27 dernièrement, peut-être que vous n'aviez déjà la saveur, mais en le relisant ensemble, c'est le genre de passage que vraiment on voit, waouh, 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 il y a tellement de belles choses dans ce beau psaume. Et je dirais que dès l'ouverture, le verset qu'on a lu, ça nous donne l'essence même. L'Éternel est ma lumière. Et il est mon salut. C'est pour ça que le titre du message, c'est simplement, tu sais, parce qu'on voit ensemble le thème de l'année, c'est Christ dans les Écritures. Ben, Christ est la lumière de notre salut. C'est lui qui nous a éclairés. Nous qui étions dans les ténèbres. Et Christ, par son salut, chasse les ténèbres de nos vies. Effectivement, il chasse les ténèbres de la peur. Pourquoi? Parce qu'il est le refuge qui nous donne la sécurité. Il chasse les ténèbres du rejet. Pourquoi? Parce qu'il est le refuge où est-ce qu'on trouve de l'importance. Il nous donne une valeur en Jésus-Christ. Et Christ est la lumière qui chasse les ténèbres de la honte. Parce qu'en lui, on est dans le bien-aimé, on est accepté en Jésus-Christ. Et comme beaucoup de psaumes ici, il faut comprendre l'expression « salut ». L'Éternel est mon lumière, est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Oui, on peut parler du salut éternel, ça peut évidemment référer au fait d'être sauvé, comme on le dit dans le jargon chrétien, mais il y a aussi toute l'idée de délivrance. L'Éternel, je retrouve auprès de lui la délivrance. Et pourquoi j'amène ça? Parce que la délivrance ne se limite pas seulement au fait quand j'ai été sauvé, que Dieu m'a sauvé de la pénalité de mon péché, que je suis maintenant un enfant de Dieu, mais même l'Éternel me délivre constamment du péché qui m'enveloppe si facilement, du mensonge. En fait, l'Éternel me libère des effets néfastes, destructeurs et mortifères de la chute. La chute a tellement fait... Tu sais, la chute est tombée pas à peu près, là. Quand on est tombé solide. Mais tout ça est restauré en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et Christ est lui-même la solution, la vie qui met fin à la mort dans nos vies. Parce que la vie chrétienne, mes amis, la foi biblique, ça va au-delà de juste, OK, telle doctrine, on dirait en québécois un set de doctrines. C'est pas juste une série de vérités froides sur une page, malgré que ça l'inclut quand on a la foi, ça l'inclut des vérités qu'on peut, comme ça, dont on peut faire la nomenclature. Mais la vie éternelle, c'est d'abord connaître de façon relationnelle une personne. Dieu, en la personne de son Fils, par le Saint-Esprit. Et donc, on peut dire que Christ incarne et il infuse toutes les vérités de la parole, toutes les vérités qui nous rendent libres en lui-même, et c'est à travers lui, dans une relation avec lui, que ces vérités prennent forme, ils prennent vie. Et donc, ainsi, Christ reproduit sa vie dans ceux qui le reçoivent, dans ceux qui marchent avec lui par la foi. Et pour le dire dans d'autres mots, en rapport avec le titre du message qui est « Christ, la lumière de notre salut », ben, Christ est la lumière qui éclaire nos ténèbres, qui amène sa délivrance là où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Pour le mettre dans les mots de Jean, dans Jean 1 et Jean 3, ça dit, elle, ça c'est la parole, elle était la vie, elle était, et la vie était la lumière des hommes. Ça dit aussi dans Jean 3, verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus est la lumière qui éclaire nos vies. Sans lui, on est dans des ténèbres. Sans lui, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis on apprend aussi ici dans ce verset 1 que l'Éternel est le soutien de notre vie. C'est-à-dire, il soutient ma vie en chassant les ténèbres, différentes ténèbres qu'il peut avoir, les ténèbres du mensonge. N'est-ce pas qu'on vit dans un monde de mensonges? Et n'est-ce pas réconfortant de savoir qu'on a la lumière de la vérité, la lumière de la parole de Dieu? Et à cause de ça, on peut dire, celui qui croit en lui n'est point confus. Il y a tellement de confusion, ça en est fou, on devient un peu comme dans un océan où est-ce qu'il y a de la vérité et du mensonge qui flotte partout, puis on ne sait plus trop qu'est-ce qui est quoi, puis on... Mais avec la parole de Dieu, on sait que c'est le fondement, on est sûr et certain, c'est le fondement qui demeure. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et donc, c'est une grande bénédiction de pouvoir connaître comme ça ce Dieu qui a fait luire sa lumière dans nos vies, pour voir comment cette lumière amène la délivrance. Christ, la lumière de notre salut, ou on peut le dire, Christ, la lumière qui nous délivre. On va voir trois délivrances qu'on a par Jésus-Christ dans ce beau psaume qu'on a sous les yeux ce matin. D'abord, Christ nous délivre de la peur. Regardez les versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voyez-vous comment c'est incroyable, c'est les mots de quelqu'un qui a une confiance débordante, la peur n'a pas d'emprise sur lui, il a une pleine assurance en son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en sécurité. Il sait que peu importe ce qui arrive, dans les mains de Dieu, il est en sécurité. Et nous avons une parfaite et une éternelle sécurité en Jésus-Christ. J'espère que vous chérissez cette vérité, que nous sommes sécurs. Le salut, c'est quelque chose de sécur, d'éternel. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Puis écoutez aussi dans les mots de Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. C'est comme si notre vie est dans la main de Christ et la main de Christ est dans la main de Dieu. Et elle est cachée là, sûre, sécure. Et ça, c'est un grand réconfort. C'est la lumière du réconfort de Dieu qui rassure nos cœurs devant lui. Vous savez, on peut avoir de l'assurance devant Dieu, pas à cause de ce qu'on est, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, mais à cause de ce que Dieu a fait de nous. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, n'est-ce pas que ça arrive? Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ah, l'assurance devant Dieu. On voit ici L'assurance de la foi, l'assurance de savoir qu'on est sécure dans les mains de Dieu. Et la Bible nous dit que, pourquoi je peux avoir cette assurance? Parce que Dieu me garde par sa puissance. Moi, j'ai pas de puissance. Moi, je peux faillir. Moi, je peux tomber. Mais Dieu, si c'est lui qui me garde, lui qui est tout puissant, je peux être vraiment assuré que je suis en sécurité. Écoutez ce que ça dit dans 2 Timothée 1:12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. L'apôtre Paul ici qui parle, lui qui a été persécuté, qui a beaucoup souffert pour le nom de Christ, mais il dit « Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Dieu a la puissance de nous garder, c'est une promesse, même encore plus que ça, c'est un état de fait. Écoutez ce que ça dit dans 1 Pierre. « À vous qui... par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ça parle d'un état de fait. Dans Jude, ça va dans le même sens, Jude 1. « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. » Donc, c'est Dieu qui nous garde par sa puissance. C'est pour ça qu'on est en sécurité. Peut-être que Philippe a dit ça dernièrement, je ne sais pas. Peut-être qu'un des enfants des cieux a dit ça dernièrement, mais vous avez sûrement déjà entendu « Mon père est plus fort que le tien ». C'est une petite phrase enfantine qu'on entend, mais qui a peut-être plus de signification des fois que ce qu'on peut penser au premier abord. Parce que cette simple phrase exprime un concept biblique de la différence entre la peur et la crainte. Et c'est un concept ici que j'aimerais juste vous expliquer un peu. Parce que quand ça parle d'être gardé par sa puissance, c'est ce qui chasse la peur. Mais en fait, bibliquement parlant, c'est la crainte de l'Éternel. Et juste avant de vous parler de la crainte de l'Éternel, parlons un peu de la peur. La peur, c'est quoi? La peur nous surprend. La peur, c'est quelque chose de laquelle on ne s'attend pas et qui nous laisse dans un état vulnérable. C'est pour ça qu'on a peur. Parce qu'on sait qu'on est sujet au danger. Et on ne sait pas quoi faire. Ça augmente encore plus le sentiment de peur quand on ne sait pas quoi faire pour se protéger. Et ça arrive lorsqu'on n'est pas capable de comprendre ou d'expliquer ce qui nous arrive et qu'on n'est pas capable de changer la situation. C'est ça la peur. On a peur lorsque la réalité, sans avertir, est plus que ce que nous nous imaginions. On pensait que tout était beau, puis on est, paf, ça arrive de nulle part. Quelque chose, un danger qui nous rappelle notre vulnérabilité. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler. Mon Père est plus fort que celui qui est dans le monde. Notre Père céleste est plus grand que Satan qui est dans le monde. Et plus grand que le Père du mensonge, que le prince de ce monde. Et il est capable de nous garder, de nous sécuriser face à l'inconnu. Voyez-vous comment il y a une vérité là-dedans? Et en hébreu, dans l'Ancien Testament... Le mot qu'on utilise pour, c'est une expression qui est beaucoup dans l'Ancien Testament, la crainte de l'Éternel, le mot crainte, est souvent utilisé pour référer à beaucoup plus de simplement l'idée de avoir peur. Non, l'expression crainte de l'Éternel, c'est un terme par excellence pour référer à être saisi, à être, si vous voulez, à être conscient, ou de cultiver, je devrais dire, une conscience de la présence de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est savoir que Dieu est là. Donc, si Dieu est là, pourquoi j'aurais peur? C'est ça le psaume. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je craint? Ça, c'est l'expression de la crainte de l'Éternel. Il n'a pas peur parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Il est conscient de sa présence protectrice. Et juste pour ceux qui ne savaient pas, si vous prenez des notes, nous ne sommes pas le centre de notre existence. Puis on n'est pas la chose la plus importante à considérer dans nos vies. Non, Dieu l'est. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est pas moi le centre de ce que moi je veux faire, puis ce que je pense, puis tout ça. Et c'est ça la crainte de l'Éternel, la conscience de sa présence, c'est de nous garder dans cet état d'éveil spirituel. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez d'être dans cet état que Dieu est là. On peut toujours se tourner vers lui. On peut garder les yeux fixés sur lui, tourner vers lui les regards, et ainsi on est rayonnant de joie. Et c'est Dieu lui-même qui nous protège de nous-mêmes, de nos tendances à penser qu'on est au-dessus de nos affaires, puis après ça on agit en conséquence, puis qu'est-ce qui arrive? On se plante. Mais quand on a la crainte de l'Éternel, on se rend compte, wow, t'as peu. Dieu, moi j'aurais bien le goût de faire ça, ça serait ma réponse, mais toi, c'est quoi que tu veux toi? C'est quoi que tu penses toi? C'est ça la crainte d'éternel, c'est d'être conscient que c'est pas nous le centre de notre vie, c'est pas nous qui dirige notre vie, c'est l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, en réalité, c'est Dieu qui nous délivre de la peur en nous gardant ou en nous remettant, en se remettant à lui constamment au centre de nos vies. Quelle délivrance! Dieu lui-même nous délivre de la peur par sa présence. Et il dit tout le temps, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Il nous le dit parce qu'il veut nous le rappeler que la solution à la peur, c'est Dieu lui-même, être conscient de sa présence. Ça m'amène au deuxième, la deuxième délivrance dans notre texte, dans les versets 4 à 7, il nous délivre de la honte. Verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Le rocher, c'est Christ en passant. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Avez-vous remarqué ici, on a le langage de quelqu'un qui sait qu'il a de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il désire être en sa présence. Il sait qu'il peut aller auprès de Dieu parce que Dieu l'accueille, parce que Dieu l'a racheté. Il est délivré de la honte. Quand on a honte, on se cache. Quand on a honte, on ne veut pas se montrer, puis certainement pas à Dieu. Mais lui, il désire aller devant Dieu parce qu'il a été délivré de cette honte, de son péché, puis de ce qui le fait rougir dans sa vie. Mais on voit encore plus que ça, on voit la délivrance de la honte de, par le fait que il est certain de la faveur et de la protection de Dieu. Il dit que Dieu va le protéger. Il sait qu'il peut se cacher sous l'abri de sa tente. Donc, il est vraiment dans une certitude devant Dieu. Et c'est ce qui l'amène à l'adorer, à le louer, à le célébrer. J'offrirai des sacrifices dans ta tente du son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et évidemment, à cause qu'il a cette assurance devant Dieu, il se confie en lui dans la prière parce qu'il sait qu'il va être écouté, parce qu'il est favorisé. Parce que Dieu le regarde avec un regard de faveur. Il a de la valeur, il a une importance aux yeux de Dieu. Et savez-vous, c'est vrai ici pour tout le monde qui est un enfant de Dieu, qui a été racheté par le sang de Christ. Pensez-y, là. Christ a versé son propre sang, il a donné sa vie. Et c'est ça qui nous délivre de la honte. Si lui a pris ma honte, je peux en être délivré. J'ai pu avoir honte, il l'a pris, il a payé pour. Et ça, ça ranime nos cœurs. Comment? Ça nous rappelle la bonté de Dieu. Est-ce qu'on méritait? Est-ce qu'on avait quelque chose en nous qui fait que Dieu nous a regardés avec faveur? Absolument pas. C'est dans sa bonté qu'il nous a accueillis. C'est la lumière de la plénitude de sa sainteté. Dieu, il est incomparable. Il y a juste Dieu qui est comme ça. Et en lui, on trouve une faveur imméritée dans sa grâce. Et ça, ça nourrit notre espérance. Ça nous ramène au fait qu'on est favorisé dans le bien-aimé. Et ça, c'est une expression de la parole même. Ça nous dit dans Éphésiens 1, 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. La façon de voir ou de savoir, si vous voulez, que nous vivons à la lumière de l'acceptation que Dieu nous donne, de la valeur qu'il nous donne en Jésus-Christ. Savez-vous c'est quoi? Verset 4. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. C'est quoi mon désir? Est-ce que je désire sa présence? Puis, il y a le désir, puis il y a l'intensité du désir. Quand on a honte, je vous l'ai dit, la dernière chose qu'on veut, c'est bien aller se présenter devant Dieu. Mais quand on sait qu'on est accepté dans le bien-aimé, que Dieu, il nous a donné un salut éternel et qu'à cause de ça, on est délivré de la honte, on a hâte d'aller voir Dieu. C'est un peu comme, c'est drôle, hein? Des fois, l'amour, l'amitié a des choses en commun. Deux bons vieux amis ou des amoureux qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Ils brûlent de désir de se revoir, puis quand des amis se revoient, c'est comme si on repart où on était rendu. Puis c'est comme si le temps, on ne le voit pas passer. Il y a de la joie, de l'allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils chérissent le fait d'être dans la présence de l'autre. Simplement. Il y a un désir qui est là. Hey, j'ai hâte de voir mon ami. Ah, j'ai hâte de voir comme c'est. Vous l'avez dit qu'ils ont lu il n'y a pas longtemps, le Cantique des Cantiques. Ah, la Sulamite, elle désire donc voir son bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de précieux de vivre dans la présence de l'autre et c'est mutuel. Avec ce que je viens de dire, est-ce que vous pouvez dire que je viens de décrire votre relation avec Dieu? Est-ce que je viens de décrire ton approche à la parole, à la prière, à l'Église, à la communion fraternelle? Vous savez qu'un enfant de Dieu, il est caractérisé par ça. Il y a un désir pour Dieu, puis tout ce qui va avec Dieu. Moi, je me rappelle quand j'ai été sauvé, ça a été un méchant changement. Moi, je ne voulais rien savoir de Dieu puis des églises. C'était comme, c'était pas dans ma vie, puis ça ne m'intéressait pas que ça soit dans ma vie. Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, tu sais, quand on dit Dieu nous a aimé le premier, là, mais hein, parce que moi, je ne l'aimais pas pantoute. Je veux dire, j'étais comme, moi, Dieu, c'était. Il ne faisait pas partie de ma vie. J'étais un athée, là, pur et dur. Puis. Quand Dieu m'a sauvé, ben, c'est une des affaires marquantes qui a changé, ces désirs-là. Pour sa parole, hey, mon ami, c'est comme. Si elle se mangeait la Bible, là, je pense que j'aurais mangé 4-5 Bibles par semaine, je me rappelle. Je veux dire, c'est. Puis, il y a ça, puis. Ah, j'étais content d'aller à l'église, puis vraiment, coudonc, c'est donc bien spécial, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ce désir. Et je dirais. Ah, on peut l'étouffer, on peut attrister l'esprit. Mais s'il y a zéro de ce désir, s'il n'est même pas présent, je suis dans le devoir de vous dire, comme ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Si on est un enfant de Dieu, on a des désirs pour Dieu. S'il y a zéro désir, est-ce que Dieu est là? Et si vous êtes un enfant de Dieu, malheureusement, oui, c'est vrai, ça se peut. Des fois, notre cœur devient tiède. Des fois, nos désirs pour Dieu sont beaucoup moins forts que les désirs pour ce qui est dans le monde, pour notre chair. Et dans ce cas-là, je pense qu'une bonne prière, c'est dans le psaume 51. « Annonce-moi l'allégresse et la joie. » Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Peut-être que c'est le besoin que tu as ce matin, c'est une prière de repentance, psaume 51. Mais pourquoi ça c'est si important? Remarquez qu'ici il dit, je demande... une chose à l'Éternel, puis la désire ardemment. Une chose, ça veut dire que c'est la priorité absolue. Il y a une affaire qui est importante, puis c'est celle-là. Puis pour vous dire que c'est pas juste David qui avait ça dans l'Ancien Testament, Paul, dans le Nouveau Testament, dit dans Philippiens 3:13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire la récompense, puis tout ce que Dieu avait pour lui, Paul, mais ça dit, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui était en avant. » Les deux, il y avait un désir qui était englobant pour toutes les autres choses dans leur vie. Je fais une chose, je désire une chose. C'est Dieu lui-même. Ici, il dit, je vais dans la maison de Dieu. Puis là, quand il dit, je cours en avant, je cours vers la vocation céleste, je désire Christ après lui que je cours. C'était un désir qui, vraiment... se répandait sur toutes les autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de l'été, je ne me rappelle plus c'était quand exactement, mais j'avais déjà prêché c'est Christ, notre sanctification. Vous regardez ce calendrier, pas là, parce que vous allez déranger tout le monde, mais Christ, notre sanctification, puis la sanctification par la soif de Dieu. Vous rappelez-vous dans psaume 63, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. » Voyez-vous la puissance du désir pour Dieu, pour lui-même. Et mes amis, C'est ça, être délivré de la honte. Parce que la honte, c'est tellement pernicieux. Avec la honte, on va avoir des remords. Avec la honte, on va accepter les accusations de Satan, nos propres accusations. Puis on s'éloigne de Dieu, on devient distant de lui. Mais j'aimerais vous dire que la relation à cause de Christ, la relation qu'on a avec Dieu, elle est sainte, il n'y en a pas de même sur la terre. Elle est sans honte, elle est valorisante, elle est nourrissante. C'est pas que, il faut absolument que je fasse ci et que je fasse pas ça, sinon ça va mal aller. Non, c'est que je serais fou de faire ci ou de pas faire ça avec un Dieu si merveilleux. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a un désir pour Dieu. Et ça change tout. Parce qu'on ne veut pas négliger la chose la plus importante. Dieu et Dieu lui-même dans notre vie. Ça m'amène à la troisième délivrance. Dans les versets 8 à 11, il nous délivre du rejet. Verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Avez-vous remarqué les expressions « cacher sa face », ne pas lui cacher sa face, ne pas le repousser, ne pas le laisser, ne pas l'abandonner. On voit vraiment ici le langage de quelqu'un qui n'est plus rejeté par Dieu. Et ce, même s'il peut être rejeté par les humains. « Car mon père et ma mère m'abandonnent. » C'est fort, c'est la relation la plus forte qu'on a sur la terre. Il vit du rejet dans cette relation-là, mais l'Éternel me recueillera. C'est le langage de quelqu'un qui connaît le rejet. Il a été rejeté, mais qui a expérimenté l'acceptation par l'Éternel. Il a été recueilli. L'idée, c'est vraiment qu'il a été rejeté, puis là, il était là, laissé pour compte. Mais nous, on est détruit quand on est laissé par notre père puis notre mère, nos parents. Mais Dieu l'a recueilli. Et ça, je vous dirais que c'est la lumière de l'accueil de Dieu qui calme nos cœurs par son amour. Parce que Dieu, dans son amour, est venu nous recueillir. Là où on était, même si c'était dans le plus bas fond, du fond de la fosse, je t'invoque, ô Éternel. Puis on l'a vu, il place nos pieds sur le roc. On n'est plus rejeté, on est accepté. Je l'ai dit tantôt dans le bien-aimé. Écoutez à ce sujet-là. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Si Christ a payé par son propre sang pour nous sanctifier, pour nous mettre à part, qu'est-ce qui peut nous amener du rejet dans notre vie si Dieu a fait une si grande œuvre, s'il a payé un si grand prix? J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Par amour, Jésus-Christ a accepté de payer le prix pour mettre fin à notre rejet en nous accueillant, en souffrant lui pour ce que nous, on a fait. Lui a pris notre péché pour nous donner du bien. Lui a été maudit afin qu'on soit béni. Alors pourquoi qu'on serait si peu enclin à vivre à la lumière d'une si grande vérité puis de répondre comme ça à cet amour en l'acceptant dans nos vies pour ne plus avoir peur de voir qu'on n'est plus rejeté? Mais aussi, savez-vous quoi? Je pense qu'aussi ça devrait paraître dans nos relations interpersonnelles. Pourquoi on est si prompt à rejeter ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous dérange, quand Dieu a tellement accepté de souffrir pour nous, qui le dérangeait, qui faisait toutes sortes de choses, qui s'attaquait à son grand nom? Et je dirais que, vous savez, vous connaissez cette phrase, je la répète souvent, c'est quoi l'amour? C'est d'accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. C'est tough, l'amour. L'amour, c'est pas la petite notion là, tellement diluée qui ramène juste l'amour au côté romantique, parce que ça fait partie de l'amour conjugal, mais même, bon, l'amour familial, il y a d'autres aspects, tout ça. D'ailleurs, dans la langue grecque, il y a plusieurs mots pour amour. Mais dans son essence, l'amour, c'est un sacrifice, c'est d'accepter de souffrir. C'est pas facile d'aimer. C'est facile d'aimer quand tout va bien. Mais le vrai test de l'amour, c'est pas quand tout va bien. C'est quand c'est dur. C'est quand que la personne n'est pas aimable. C'est quand que tout va contre cet amour. C'est d'accepter de mourir, de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Mais là-dessus, je veux m'arrêter aussi. Parce que dans nos cœurs, je peux quasiment l'entendre. Il y a des oui-mais. Il y a des oui-mais qui s'élèvent, n'est-ce pas? Oui, mais tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Oui, mais... C'est là que je m'en viens. Remplacez ce « oui, mais ». Échangez-le, ce « oui, mais » par le « mais Dieu » qui nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et en passant, la grâce, c'est quand Dieu fait le travail. Vous dites « oui, mais je ne suis pas capable ». Bien, tant mieux. Ça veut dire que Dieu va pouvoir le faire parce que toi, tu ne seras plus d'un genre. C'est ça la grâce. Non, mais c'est vrai. Puis là où le péché a abondé, n'avons-nous pas des relations où est-ce que le péché a tellement mis des bâtons dans les roues, a tellement fait des dommages collatéraux qu'on dit « c'est impossible, je ne suis pas capable de changer ça ». Mais Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il donne cet amour par le Saint-Esprit qui est versé dans nos cœurs, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Et à plusieurs reprises, on a dans les versets qu'on a lus l'expression « chercher la face de Dieu ». On a ça au verset 8. C'est quoi chercher la face de Dieu? C'est chercher Dieu lui-même. Vous savez, on peut chercher la main de Dieu. Dieu bénit. Dieu fait quelque chose. Mais chercher la face de Dieu, c'est pas chercher la bénédiction, puis ce qu'il fait, c'est de chercher lui pour qui il est. Dieu, si je te trouve toi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Ah oui, ta main peut faire des choses, puis on a certainement besoin de la main de Dieu dans nos vies. Mais si on voit sa face, on a le plus grand des privilèges. Et savez-vous, nous, on est dans le Nouveau Testament, puis on a tendance à prendre ça pour acquis. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu montrait comment c'était quelque chose de terrible. Je vais vous donner quelques petits versets ici qui nous aident à comprendre ça. L'Éternel dit ici à Moïse dans Exode 33, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Il y avait la montagne aussi, que même si tu touches la montagne, tu meurs. Puis écoutez ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, dans Jean 14, 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. » À cause de Christ, on peut voir le Père et on peut voir sa face. Écoutez, c'est à cause de l'œuvre de Christ. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme comme il y avait sur la terre le temple. Non, non. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. On peut voir la face de Dieu parce que Christ se présente à nous. Puis nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons voir Dieu face à face et vivre. Méditez là-dessus, c'est grand, c'est quelque chose. Et la vie chrétienne, mes amis, ça commence par la fin du rejet. Ça se nourrit par la fin du rejet et ça culmine, n'avons-nous pas chanté tantôt, voir mon Sauveur face à face. Un jour, on va le voir tel qu'il est. Et si c'est ça entre le chrétien et son Dieu, n'est-ce pas que ça devrait être vrai entre un chrétien et un autre chrétien, la fin du rejet? On a de la misère avec ça. Parce qu'on se fait souffrir, puis quand quelqu'un nous fait souffrir, qu'est-ce qu'on fait? Pouf, on pousse. C'est une réaction humaine automatique. T'as mal, paf, tu pousses. Et on se fait mal. Mais c'est pas christique, ça c'est humain. La grâce de Dieu va au-delà. Le « mais Dieu » est plus grand que nos « oui, mais ». Et ça, c'est merveilleux. Et ça m'amène à conclure avec les versets 12 à 14. Où est-ce que le psalmiste dit « ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Oui, on voit une grande délivrance, on voit une délivrance de la peur, de la honte, du rejet dans les versets précédents. qu'on a considéré dans le message. Mais ici, il y a un contraste. Ici, on voit des ennemis qui s'élèvent, qui sont en faux témoins, qui respirent la violence. Ici, c'est pas tout nécessairement tout beau, puis tout va bien. Là. Et là, je vais vous expliquer vraiment ce qui arrive dans nos cœurs quand ça arrive. Ça arrivait dans le cœur de Job. Dieu, dans sa volonté souveraine, vous savez que Dieu, quand il fait quelque chose, il ne demande pas de conseil à personne. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, puis il est absolument souverain. Et des fois, il permet que on soit livré au bon plaisir de nos adversaires. Il peut permettre qu'il y ait des faux témoins qui s'élèvent contre nous autres, que des gens respirent la violence contre nous. Est-ce que ça veut dire que on peut avoir peur, que la honte vient nous reprendre parce que ce qu'ils disent c'est vrai puis on a tellement honte, ou que ça veut dire d'une manière ou de l'autre qu'on est rejeté par Dieu? Non, vous savez que ça ne veut pas dire ça. Mais notre compréhension, dans notre tête, dans nos raisonnements, c'est ça qu'on pense. C'est ça que Job pensait. C'était ça sa lutte, c'est ça qui le tourmentait. Puis ses amis, étaient juste des voix qui faisaient du bruit, qui l'empêchaient de se concentrer au-delà de tout ça, justement. Et là, on ne comprend plus. Mais avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui se répète au verset 14? Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. N'est-ce pas que lorsque Dieu envoie des choses qu'on ne comprend pas, puis on prend ça comme une forme de rejet, une forme de désapprobation de la part de Dieu, on perd espérance. Il n'y a plus rien à faire. Mais n'est-ce pas que ces versets-là aussi nous disent que Dieu est bon. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Puis, ah, si je n'étais pas sûr, c'est ce qui donne de l'espérance, c'est la bonté de Dieu. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, c'est injuste. Mais je suis sûr de voir la bonté de Dieu. Ce que je disais tantôt, on peut passer à travers toutes sortes de choses, mais Dieu ne change pas. Dieu n'arrête pas d'être bon quand ça va mal. Dieu n'arrête pas d'être bon quand on vit des injustices, quand on voit tant de mensonges. Tout. Dieu n'arrête pas d'être qui il est. Ça, ça ne change pas. Puis c'est ça, notre rocher. C'est ça, notre stabilité. C'est ça, notre force. Et mes amis, ce qui arrive souvent, c'est que quand on voit les choses se tourner de même, de mal en pire, on perd sa main de vue. Puis là, on se dit, ça y est, l'Éternel m'a abandonné. Ah non, mais si on cherche sa face, on va voir que ça n'a jamais changé. Ah, c'est vrai, des fois, on perd sa main de vue. Mais on peut faire confiance à son cœur, puis on peut toujours chercher sa face. Je ne sais pas, t'es où ce matin dans ta vie, dans ce que tu traverses. Peut-être que tu sens le poids de la confusion qui vient avec le fait d'avoir peur, d'avoir honte, de te sentir rejeté, puis que c'est au point que tu en perds espoir. Mais je suis content de vous dire que Jésus est la fin de la peur, il est la fin de la honte, puis il est la fin du rejet. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, tout commence là. Puis comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas juste une vérité froide dans un livre, c'est une personne qui se présente à vous ce matin. Nous ici, on est son peuple, ceux qui l'ont reçu, il est notre vie, il vit en nous. Il est notre sauveur, notre vie, notre Seigneur. Et notre désir, si vous êtes ici et vous ne le connaissez pas encore personnellement, comme je disais, pour que ça change vos désirs, que ça change complètement tout dans votre vie, voici maintenant le temps favorable, voici aujourd'hui le jour du salut. Confiez-vous en Christ, c'est le seul sauveur. Et la seule façon d'être sauvé, c'est par la foi, la confiance, pas dans vous, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous aimeriez faire, mais dans ce que Christ a fait. Il est notre justice. Lui, juste et mort pour nous, injuste. C'est le seul espoir d'une humanité perdue. Et pour les enfants de Dieu qui sont ici, Jésus-Christ perpétue, maintient et sécurise nos vies. Il nous a donné de la valeur en mourant pour nous. Il nous a acceptés. C'est fini, la peur, la honte, le rejet. Et c'est lui que je veux exalter en terminant. C'est lui que je veux qu'on voit. C'est lui la lumière de notre salut. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Et ce salut, il l'a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, qu'on puisse venir à lui avec ce avec quoi on vit. Il est suffisant. Il est parfait. Il est là. On n'a qu'à se confier en lui. Merci Seigneur, parce que oui, tu es le vrai Dieu, tu es vivant. Et Seigneur, merci que tu es capable. Tu es capable, Seigneur, de nous faire passer à travers n'importe quoi que tu permets dans nos vies. Et que tu le permets dans ton amour, tu le permets parce que tu es bon. Tu veux nous délivrer de nous-mêmes. Tu veux aussi sauver ceux qui sont encore morts dans leur offense et leur péché. Seigneur, c'est notre prière. Oh Seigneur, viens à nous. Et c'est toi qu'on cherche, Seigneur. On cherche ta face. On veut, Seigneur, on sait qu'un jour on va te voir. Les enfants de Dieu qui sont ici vont voir Jésus face à face. Ah, s'il y en a qui ne le connaissent pas encore, qui puissent se confier avant qu'il soit trop tard, se confier dans le sacrifice parfait. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, ah, que vraiment, on se confie en toi dans toutes les circonstances de notre vie. Que vraiment, tu mettes en nos cœurs un désir brûlant pour toi. Qu'on désire une chose et qu'on la désire ardemment. Toi, ta présence, ta bonté. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.